You have 93.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Le Monde aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous dans cette édition du mercredi 9 mars 2022 dont voici d'abord les principaux titres. Conflit en Ukraine, le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, parle à Poutine et demande un cessez-le-feu. Le Congrès américain veut débloquer 14 milliards de dollars pour la crise ukrainienne. Une nouvelle attaque de masse contre les forces de l'ordre dans le nord-ouest du Nigeria fait 19 morts dans les rangs des membres des forces de sécurité. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. L'Union africaine demande un cessez-le-feu durable en Ukraine. Le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, est président en exercice de l'organisation. C'est entretenu ce mercredi avec son homologue russe Vladimir Poutine. Le point avec Abdelrahman Dia.
Le chef de l'État sénégalais l'a lui-même annoncé sur Twitter. Il dit saluer la disponibilité du patron du Kremlin à maintenir le dialogue pour une issue négociée du conflit. Déjà, l'Union africaine avait, dans un communiqué publié le 24 février, appelé la Russie et tout autre acteur régional ou international au respect impératif du droit international, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de l'Ukraine. Elle avait exhorté la Russie et l'Ukraine à un cessez-le-feu immédiat et à l'ouverture de négociations sous l'égide de l'ONU. Le 28, elle s'est émue dans un autre communiqué des informations selon lesquelles des ressortissants africains fuyant les combats étaient empêchés de franchir la frontière et a jugé que de tels refus seraient choquants et racistes et violeraient le droit international. Par ailleurs, le Sénégal, aux relations fortes avec les pays occidentaux, a surpris la communauté internationale le 2 mars en s'abstenant lors d'un vote de l'Assemblée générale de l'ONU en faveur d'une résolution qui exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Parmi les 35 pays qui se sont abstenus, 17 sont africains.
Au Nigeria, des hommes armés ont tué 13 soldats, 5 policiers et un milicien local lors d'une bataille rangée dans le nord-ouest du pays où une cinquantaine de miliciens avaient déjà été tués la veille lors d'une attaque similaire de bandits locaux. Le point avec Claire Moré-Gibourg.
L'attaque s'est déroulée hier dans le village de Kanya, dans l'état de Kebbi, frontalier du Niger. Selon des témoins, des centaines de bandits ont envahi Kanya mardi soir dans le district de Danko-Ouazagou et ont affronté durant plus de 3 heures un contingent de policiers et soldats. Ils sont arrivés sur environ 200 motos, à 3 par moto, a témoigné un résident, Moussa Arkiza. Un membre des services de sécurité a indiqué qu'il y avait eu au moins 19 morts, dont 13 soldats, 5 policiers et un milicien. S'exprimant sous couvert d'anonymat, il a ajouté que la bataille avait été très intense et que les terroristes avaient eu le dessus grâce à leur nombre. Lundi, au moins 57 membres d'une milice d'autodéfense avaient été tués à seulement quelques kilomètres de là, près du village de Sakaba, dans le district de Zourou. Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont depuis plusieurs années la proie de multiples gangs de bandits qui multiplient les pillages et les enlèvements. Récemment, les attaques se sont intensifiées et le président Muhammadu Buhari a appelé en janvier à une répression plus dure de l'armée contre les gangs, désignés désormais comme terroristes par le gouvernement.
Au moins 10 civils ont été tués dans la nuit de lundi à mardi au Niger dans une série d'attaques attribuées à Boko Haram dans la commune de Gueskérou, proche du Nigeria, selon un élu de la commune. Située à une trentaine de kilomètres de Diffa, la grande ville du sud-est nigérien, des assaillants de Boko Haram venus à pied ont attaqué plusieurs villages. La junte militaire au Tchad a remplacé mercredi un comité chargé d'amener la rébellion à la table des négociations par un nouvel organe de médiation. Un dialogue doit s'ouvrir dimanche au Qatar. Le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, a confié la présidence du nouveau comité spécial à son ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zene. Ce rôle de conduire les négociations était dévolu jusqu'alors à un comité technique spécial de CTS, présidé par Goukouni Wedeye, président du Tchad de 1979 à 1982. La libération la semaine dernière de Freeman Mbowe, chef du Tchadema, principal parti d'opposition, suscite un espoir d'ouverture démocratique en Tanzanie. Peu après sa libération, cette figure de l'opposition a été reçue par la présidente Samia Suluhu Hassan et tous deux ont promis d'apaiser les divisions du pays. Cette rencontre a ravivé l'optimisme suscité par la nomination de Hassan à la présidence en mars 2021. Elle avait alors affiché une certaine rupture avec son prédécesseur Magufuli, tendant la main à l'opposition et autorisant la réouverture de médias interdits. Le sommet annuel de la Ligue arabe est prévu début novembre à Alger après 3 ans d'interruption en raison de la pandémie de Covid-19, a annoncé mercredi le secrétaire général de l'organisation panarabe. Les chefs d'État arabes s'étaient réunis la dernière fois en mars 2019. L'ONU en Somalie s'est dit extrêmement inquiète mercredi de la difficulté à mobiliser des fonds face à la grave situation humanitaire causée par la sécheresse dans le pays, qui est éclipsée par d'autres crises dans le monde. La situation est grave et se détériore rapidement, a alerté le coordinateur humanitaire de l'ONU en Somalie lors d'une conférence de presse à Nairobi. En février, 4,5 millions de Somaliens étaient affectés par la sécheresse. Une espèce de chauve-souris que l'on croyait pratiquement disparue a été aperçue pour la première fois en 40 ans au Rwanda, ont indiqué les scientifiques à l'origine de cette découverte incroyable.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
17 adultes ont été blessés mercredi dans le bombardement par l'armée russe d'un hôpital pédiatrique à Mariupol, port du sud-est de l'Ukraine, a annoncé responsable régional. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, a déploré la barbarie de l'armée russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué sur Twitter que des enfants se trouvent sous les décombres. Aucune installation de santé en Ukraine ne doit jamais être une cible, a déclaré le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. Moscou et Kiev avaient pourtant convenu de respecter des cessez-le-feu censés permettre l'évacuation des civils de plusieurs régions bombardées. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle les Occidentaux à décider au plus vite la question de l'envoi d'avions de guerre proposé par la Pologne pour aider l'Ukraine. Les détails avec Nanit Sylvani Talani.
La vice-première ministre ukrainienne Irina Verechuk confirme qu'un accord a été trouvé avec les Russes sur la mise en place entre 9h et 21h locales de 6 couloirs humanitaires autour de zones durement frappées par les combats ces derniers jours. Ceux-ci ont obligé les civils à rester parfois cachés dans des caves pendant des jours. L'alimentation électrique du site nucléaire de Tchernobyl a été complètement déconnectée du réseau électrique en raison des actions militaires russes, un incident qui ne présente pas d'impact majeur sur la sécurité, a déclaré l'opérateur ukrainien Ukrenergo sur sa page Facebook. Le président ukrainien Zelensky remercie Varsovie pour avoir proposé d'envoyer des MiG-29 à l'Ukraine et regrette qu'aucune décision n'ait encore été prise. « Prenez une décision au plus vite, envoyez-nous des avions », a-t-il lancé aux Occidentaux. Pour sa part, la Grande-Bretagne indique poursuivre ses livraisons de missiles anti-chars à l'Ukraine. Le Canada annonce 50 millions de dollars pour du matériel militaire supplémentaire à ce pays et la mise en place des sanctions extrêmement sévères contre Vladimir Poutine et les oligarques russes. Dans la même lancée, l'Union européenne élargit ses sanctions contre Moscou et Minsk en visant les crypto-monnaies, en sanctionnant la finance biélorusse et en ajoutant 160 oligarques et parlementaires russes à leur liste noire.
Les États-Unis ont déployé de nouvelles batteries anti-aériennes Patriot en Pologne, conformément à leur engagement à défendre le territoire des pays de l'OTAN, a indiqué mercredi un haut responsable du Pentagone. Le Royaume-Uni a exhorté mercredi l'ensemble des pays du G7 à mettre fin à leur utilisation de pétrole et gaz russe, à l'instar de Londres et de Washington, en riposte à l'invasion de l'Ukraine décidée par le président russe Vladimir Poutine. Les élus de la Chambre américaine des représentants vont se prononcer mercredi sur une enveloppe faramineuse de près de 14 milliards de dollars pour la crise ukrainienne, qui comprend un volet économique et humanitaire, mais aussi des armes et des munitions. Ces fonds doivent permettre à Kiev de protéger son réseau électrique, combattre les cyberattaques et s'équiper en armes défensives. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Rosine Munezero.
Le président tunisien Kais Saied a déclaré la guerre aux spéculateurs face à une pénurie de produits alimentaires de base comme la semoule et la farine dans un pays en proie à une grave crise politique et financière. Monsieur Saied travaille sur une nouvelle législation prévoyant des sanctions pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement des commerçants impliqués et qui fera l'objet d'un décret présidentiel selon la présidence. Le président américain Joe Biden va lancer mercredi les travaux en vue d'un dollar numérique. Il va signer un décret demandant à son administration de donner la plus grande importance au développement et à la recherche en vue d'une potentielle monnaie numérique de Banque centrale des États-Unis, selon un communiqué. Monsieur Biden promet la plus grande prudence face à la multitude de risques liés à cette innovation. S'il aboutit, un tel chantier pourrait révolutionner la finance mondiale sur laquelle le dollar règne en maître. Le combi Volkswagen est de retour. La marque allemande dévoile une version électrique de son légendaire van en espérant séduire la génération écolo et pourquoi pas les amateurs des modèles historiques. Volkswagen présente mercredi soir ce nouveau véhicule baptisé ID. Buzz. Membre de la famille ID, gamme électrique phare dans laquelle le constructeur a investi plusieurs dizaines de milliards d'euros.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Yacouba Ouedraogo, bonsoir.
Bonsoir à tous. Des nouvelles de la Basketball Africa League pour commencer. Deux matchs aujourd'hui. Rwanda Energy Group REG fait face à Slack de la Guinée et l'AS Salé du Maroc joue Ferroviaro d'Abeira. Hier, les Houthis sénégalais de Dakar Université Club se sont inclinés une deuxième fois dans cette compétition, défait par les Mozambicains de Ferroviaro d'Abeira 98-92 au terme d'un match renversant. Bien avant, les Tunisiens de l'US Monastir ont enchaîné avec une deuxième victoire en battant Seydou Legacy Athletic Club de la Guinée 76-55. Les Guinéens découvrent cette balle et font la fierté de leurs compatriotes interrogés à Conakry.
Aujourd'hui, on peut dire que le basketball guinéen se porte bien. Déjà, pour une première fois, bien sûr, de l'histoire de la Guinée, il y a un club qui se qualifie pour la boule. La boule qui est aujourd'hui la Ligue des Champions, je peux dire.
Football, suite des matchs retour des huitièmes de finale ce soir en Europe, le Paris Saint-Germain joue sa saison sur le terrain du Real Madrid. Revanchard après sa défaite 1-0 à l'aller. Au lendemain d'un coup reçu au pied gauche à l'entraînement, la superstar parisienne Kylian Mbappé, convoqué dans le groupe Aide du Voyage dans la capitale espagnole, où beaucoup l'annoncent l'an prochain. À suivre aussi ce soir, Manchester City Sporting Portugal. Les citizens sont presque sûrs de se qualifier pour les quarts. Hier, le Bayern Munich de l'intenable Robert Lewandowski a coupé le souffle de Salzbourg, qui l'a corrigé 7-1 pour composter son biais pour les quarts de la Ligue des Champions. La démonstration de force porte le sceau du Polonais dans le coup de chapeau. 3-11. Défaite par contre pour Liverpool, battu à Anfield 1-0 par l'Inter Milan. Les Reds sont tout de même qualifiés pour l'écart grâce à leur victoire à l'aller 2-0. Athlétisme, Papa Massata Diack, fils de l'ancien patron de l'athlétisme mondial, Lamine Diack, doit être jugé en appel du 13 au 19 janvier 2023 à Paris. Il est poursuivi pour des soupçons de corruption visant à cacher des cas de dopage en Russie. Lamine Diack, président de la Fédération internationale d'athlétisme de 1999 à 2015, est décédé en décembre 2021 à 88 ans. Le 16 septembre 2020, le Sénégalais avait été condamné dans ce dossier à 4 ans de prison, dont 2 fermes pour corruption et abus de confiance. Quatre autres hommes condamnés à ses côtés doivent être rejugés. Et parmi eux, Papa Massata Diak, qui dirigeait le marketing à l'I2AF, il s'était vu infliger 5 ans ferme et 1 million d'euros d'amende.
C'était les sports de Yakuba Ouedraogo. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza avec vous, place au dossier du jour. Le gouvernement mauritanien a accusé mardi l'armée malienne de crimes récurrents contre ses ressortissants. Ces derniers mois, en effet, l'on a noté plusieurs disparitions et meurtres non encore élucidés de Mauritaniens en territoire malien. Pour en savoir davantage, Mohamedou Onfa a joint Moussa Ould Hamed, journaliste mauritanien basé à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie.
Ces derniers mois, il y a eu au moins 3 incidents qui ont coûté la vie à beaucoup de ressortissants mauritaniens. Le premier incident, c'est la mort de 7 ressortissants mauritaniens. La Mauritanie a accusé l'armée malienne d'avoir tué les Mauritaniens de manière très froide. Le gouvernement malien avait démenti, il a promis de faire des investigations jusqu'à présent. On n'a pas eu de résultat. Après, il y a eu 5 Mauritaniens qui ont été attaqués. Et enfin, il y a 3 jours, on parle de 15 à 30 civils mauritaniens qui ont été égorgés.
Qu'est-ce qui peut expliquer ces crimes? Est-ce qu'on a quand même une idée de ce qui se passe?
Vous savez, la Mauritanie a des frontières très larges avec le Mali. 2000 km de Sahara, de désert, c'est n'importe qui pour franchir à pied. Bon, il faut dire que le gouvernement malien n'est pas en mesure de contrôler tout ce qui est parti. L'armée malienne, c'est une armée qui est en déshérence et qui a la gâchette très facile. Ils ont l'habitude de faire beaucoup de bavures. Je crois aussi que la pression des groupes djihadistes est devenue très forte, surtout après l'annonce du retrait de la force Barkhane française.
Quelles seraient les possibles implications de ces tensions entre les deux pays qui ont en commun la lutte contre le djihadisme et qui travaillent déjà ensemble sur un certain nombre d'autres dossiers internationaux?
On est dans le G5 Sahel, on est dans l'organisation de la mise en valeur du Sénégal. On est en beaucoup de relations, les relations entre la Mauritanie et le Mali. Puis je crois que même le gouvernement malien qui est aujourd'hui frappé par l'embargo qui a été fait par la FIDEO, la Mauritanie n'est pas membre de la FIDEO, quoi qu'il n'y ait même pas dans l'intérêt du Mali de le faire, encore moins dans l'intérêt de la Mauritanie. Pourtant, je sais qu'il y a beaucoup de colère dans l'opinion mauritanienne, mais je sais aussi que le gouvernement malien ne contrôle pas son pays, ne contrôle pas son armée, et je sais que c'est un véritable problème. Le gouvernement mauritanien qui a déjà protesté, le ministre des Affaires étrangères a appelé l'ambassadeur malien à Mauritanie, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'effort de la part du gouvernement malien.
Moussa Ould Hamed, journaliste mauritanien basé à Nouakchott. Au Sénégal, un violent incendie a touché la salle de vente située au cœur du centre-ville de Dakar et considérée comme le plus grand centre commercial à ciel ouvert de la capitale. Entre vente de matériel électronique, électroménager et meubles d'occasion, ils étaient un endroit où le débrouillard sénégalais pouvait s'y équiper high-tech à bas prix. Le feu y a tout ravagé et causé des dégâts estimés à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Des portables de dernière génération, du matériel électronique et électroménager high-tech, des meubles de maison et de bureaux sont parmi les nombreuses pertes déplorées par les commerçants. Youssou Lo n'a pas pu sauver ses biens malgré ses efforts.
Je ne sais pas ce qui est à l'origine de l'incendie, mais quand j'ai aperçu les flammes, j'ai mis tous mes bagages sur le trottoir, mais malheureusement, le feu ne les a pas épargnés. C'est vraiment difficile, mais on ne peut que s'en remettre à la volonté divine, que le Tout-Puissant assiste tous ceux qui ont perdu leurs affaires, parce que c'est vraiment compliqué. C'est un désastre.
Assis sur un trottoir, entouré de quelques meubles en cendres, Sidi Diouf, un vendeur de meubles et accessoires de bureau, ne cache pas son dépit. Il chiffre ses pertes à une dizaine de millions de francs CFA.
J'ai perdu plus de 12 salons en cuir qui coûtent presque 750 000 à 800 000 francs l'unité. Mais c'est la volonté de Dieu et on est déjà heureux qu'il n'y ait pas de pertes en vue humaine. Cependant, il faut reconnaître que c'est très difficile et c'est la première fois que cela arrive ici. Ma cantine était épargnée au départ des flammes, mais avec la chaleur, ça a finalement pris feu. Et à cet instant, 9 salons étaient sur les lieux, plus de 3 salons isolés. Malheureusement, tout est parti en fumée et sous mes yeux.
Le dépit se lit également sur le visage des clients venus aux nouvelles. Pour eux également, c'est une grosse perte car la salle de vente était l'endroit où les petits budgets pouvaient s'équiper convenablement.
Il y avait consternation qu'on a appris que la salle de vente de Sandaga avait brûlé. Comme son nom l'indique, la salle de vente, ça nous permettait de satisfaire nos besoins en matériel électronique, téléphone, portable, ordinateur, tout ce qu'il y a dans l'électronique, cela nous facilitait ça parce qu'on achetait ça à bon prix et à un prix moins cher. Et cela nous permettait aussi de faire des trocs. Ce que les boutiques officielles comme Samsung, les boutiques qui vendent des téléphones techno ne font pas.
Du côté des autorités, on insiste sur la nécessité de moderniser les espaces commerciaux qui accueillent du public. Barthélémy Diaz, maire de la ville de Dakar.
Nous avons entendu le plaidoyer du commandant des sapeurs-pompiers qui a déploré le manque de bouches d'incendie. Et je pense qu'une fois que le travail technique sera fait en amont, faire en sorte que ces lieux qui reçoivent du public puissent être équipés de bouches d'incendie comme dans toute ville qui se respecte. Mais je pense aussi que c'est le lieu de pouvoir sensibiliser nos concitoyens qui évoluent dans ces environnements, qu'ils comprennent que nous sommes en milieu urbain et qu'aujourd'hui peut-être Dakar a un besoin criard de pouvoir avoir des centres commerciaux dignes de ce nom.
Les commerçants affirment que l'incendie est parti d'un court-circuit électrique et ils estiment leur préjudice à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Mais du côté des autorités, on préfère être prudent et attendre les résultats de l'enquête pour tirer des conclusions et prendre des mesures. Céline Abagé à Dakar pour VOA.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Hier mardi, c'était le 8 mars, la journée internationale de la femme. Aujourd'hui, nous vous amenons au Burkina Faso pour retrouver de jeunes étudiantes en agroéconomique qui se sont lancées dans le maraîchage. Avec cette activité, les deux jeunes dames arrivent à subvenir à leurs besoins. Elles estiment que cette journée dédiée à la femme doit être une opportunité de réflexion sur les conditions des femmes. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Nous sommes dans l'un des bas-fonds marécageux, sorti nord de Ouagadougou. Alice Ouedraogo et Madeleine Delma, deux jeunes étudiantes, 25 et 26 ans, sont à la tâche ici. Si elles ne sont pas dans les salles de cours, on les retrouve là. Elles font le maraîchage, le jardinage.
Le jardinage, en tout cas, à Ouagadougou, on en rencontre, mais pas les jeunes filles.
Alice Ouedraogo.
Maintenant, l'idée est venue suite à un constat. Parce qu'à l'école, chaque fois, on va manger le babena à midi. Les feuilles, il en manque. L'an passé, on a fait l'oignon et puis la tomate. Et ça a marché, mais pas trop. On a eu des problèmes d'eau. On s'est dit, pourquoi pas ne pas se lancer à fond dans la culture maraîchère. Et l'amarante, on fait l'amarante parce qu'on pense que l'amarante est rentable.
Et ce n'est pas aisé pour ces étudiantes d'allier les études et cette activité. Madeleine Delma.
C'est vraiment pas facile. Moi, on essaie de les coordonner. Souvent, c'est à nos heures de pause, pendant que d'autres sont en train de rentrer ce jeu pour manger. Nous, on est là pour pouvoir arroser. Le soir aussi, quand on descend à 17h, pendant que d'autres sont en train de rentrer chez eux, nous, on est là encore. Souvent, on est les premières à venir au bas-fond, on est les dernières à partir. Et puis, quand on quitte ici, il faut aller chercher quelque chose à vendre pour pouvoir payer nos intrants, pouvoir assurer l'entretien de nos plantes. C'est vraiment pas facile, mais on s'adapte.
Pour ce qui est de la célébration du 8 mars, ces jeunes étudiantes en agroéconomie pensent que les femmes doivent aussi se battre que des hommes. Alice Ouedraogo.
Les femmes aussi sont des hommes, avec grand H. Qui dit femme doit se nourrir, l'autonomisation financière. Parce qu'il ne sert pas d'être femme juste pour le ménage à la maison. Voilà, il faut se battre encore pour ses enfants, pour soi-même et même pour son mari.
Madeleine Delma.
Pour moi, le 8 mars, c'est une opportunité aux dames de penser à soi-même, à penser à d'autres choses que de s'amuser, que de faire des choses sur TikTok, Facebook, que de commenter des choses inutiles. En tout cas, l'État fait des efforts, mais souvent c'est à nous aussi de faire des efforts pour montrer à l'État qu'on veut avancer.
Ces jeunes femmes veulent, à la fin de leurs études, agrandir leur activité. Elles rêvent grand. Elles invitent les femmes, chacune dans son domaine, à impacter pour le développement de sa communauté. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, le mois de mars dédié aux droits des femmes. Cette année, la journée du 8 mars a pour thème l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Selon les Nations Unies, les femmes et les filles subissent les plus forts impacts de la crise climatique car celle-ci amplifie les inégalités existantes et met la vie et les moyens de subsistance des femmes en danger. Et la pandémie de Covid-19 a aussi accentué ces impacts liés à l'inégalité. Ce jeudi, nous ferons l'état des lieux sur le combat pour l'égalité dans les domaines socio-économiques et politiques en Afrique. Ce sera à 19h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com.
Les législateurs américains sont parvenus à un accord mardi pour envoyer jusqu'à 14 milliards de dollars d'aide humanitaire et militaire à l'Ukraine. L'effort bipartite pour faire face à l'invasion non provoquée de la Russie en Ukraine fait suite au soutien du Congrès à la décision du président américain Joe Biden d'interdire les importations de pétrole brut et de gaz russe aux États-Unis. Davantage sur le Capitole avec la correspondante au Congrès de VOA Catherine Gibson, un récit de Ginny Kapumbu-Villa.
Des milliards de dollars d'aide humanitaire et militaire pour l'Ukraine, bien au-delà de la demande de la Maison-Blanche, sont maintenant sur le point d'être finalisés par les législateurs américains après des semaines de négociations. Une somme qui n'est probablement que le début de l'aide américaine.
Je pense que le monde doit réagir et aider ces réfugiés. Et nous discutons d'un paquet qui, je pense, ne sera que le début. Franchement, d'après ce que je comprends, ce sera un paquet de 12 milliards de dollars qui fournira des avantages économiques, un soutien militaire et humanitaire, mais il y aura plus à venir.
L'effort de guerre de l'Ukraine a reçu un coup de pouce mardi avec l'annonce que la Pologne enverrait des avions de combat ukrainiens MIG-29. Mais les législateurs américains craignent que les retards bureaucratiques ne retardent d'autres aides militaires, comme l'affirme le sénateur démocrate Ben Cardin.
There is strong agreement.
Il y a un accord ferme pour fournir à l'Ukraine les armes létales défensives dont elle a besoin et nous l'avons fait, nos alliés l'ont fait. Les pays l'ont fait, nous avons été assez efficaces pour fournir ce type d'équipement aux Ukrainiens. Je suis donc un peu perplexe quant à la raison pour laquelle il faut si longtemps pour que les avions entrent en Ukraine. Le président Zelensky a clairement indiqué qu'il en avait besoin.
Un haut responsable du département d'État a déclaré aux législateurs que la décision d'invasion de Poutine avait soumis son peuple à des sanctions sévères, anéantissant 30 ans de progrès en quelques jours. À en croire Victoria Nuland du département d'État américain.
Alors que Poutine essaie de réduire l'Ukraine en ruine, il transforme également la Russie en prison. Les cartes de crédit et les distributeurs automatiques de billets ont cessé de fonctionner. Les contrôles des capitaux ont un sérieux impact. Les aliments importés, la technologie et d'autres biens se tarissent. Et la dernière presse libre de Russie a été étranglée pendant que le gouvernement dépense l'argent du peuple russe pour financer son effort de guerre et soutenir le rouble.
Bien que la décision d'interdire les importations de pétrole brut aura un impact sur les Américains, les législateurs américains des deux partis ont salué l'annonce de Biden, comme le sénateur démocrate Richard Blumenthal.
Les Américains sont prêts à faire des sacrifices pour soutenir le type de résistance ukrainienne, une défense courageuse, féroce et audacieuse de la démocratie, qui résonne beaucoup chez les Américains en raison de notre propre histoire. Mais la mesure que nous pouvons prendre pour réduire la spirale ascendante de prix de l'essence.
Toutefois, les législateurs américains continuent de souligner que le soutien américain ne s'étend pas à une implication militaire directe dans le conflit en Ukraine.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Lionel Bounanila-Garima et Georges Léonard Sagno. À la présentation, Eric Manila-Kiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.